Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Stéphane Carpentier.
8h, le journal. Très bon réveil à vous tous. C'est Agnès Bonfillon qui m'accompagne pour vous informer. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et d'abord des commerçants bordelais qui sont catastrophés.
Oui, nouvelle journée de mobilisation ce samedi. Pas moins de 5 manifestations sont prévues. Samedi dernier, le cortège pour la liberté de la presse a dégénéré. À la sortie d'un deuxième confinement, les commerçants du centre-ville craignent une nouvelle spirale infernale, Philippe de Maria.
En haut de la rue Sainte-Catherine, il y a tout juste une semaine, Wassim, dans sa boutique de lunettes, a vu se répéter un scénario qu'il ne connaît que trop bien.
Ça commençait à casser les vitrines, donc nous on a baissé le rideau. Ça devient compliqué, quoi. Ça grimpe en intensité. Donc, on pense à l'intégrité des collaborateurs et même des gens dans la rue, parce qu'il y a des familles, c'est des grosses journées, c'est samedi, on subit.
L'assaut des casseurs réveille des souvenirs douloureux des mois sans un samedi correct, avec les gilets jaunes, la réforme des retraites ces dernières années. Les clients changent tout simplement leurs habitudes, comme Blandine.
Je suis venue du coup en fin d'après-midi pour éviter ça, samedi dernier par exemple. Je suis arrivée à 18h et à 19h j'avais fini et voilà. On s'adapte, comme cette année on s'est adapté à beaucoup de choses.
La préfète Fabienne Bucchio a mobilisé plusieurs centaines de gendarmes et de policiers.
Je vais prendre un arrêté interdisant l'hypercentre de Bordeaux. Je prends aussi un autre arrêté pour interdire le transport de feux d'artifice. Enfin voilà, ces mesures qui nous permettent aussi de verbaliser et d'arrêter, de placer en garde à vue certaines personnes.
Et premier cortège dès 14h aujourd'hui dans les rues de Bordeaux.
Le reportage de Philippe de Maria pour RTL. Les manifestations qui dégénèrent, la casse et les affrontements avec les forces de l'ordre. Hier, lors d'un entretien aux médias en ligne brute, clairement à destination des jeunes, Emmanuel Macron est revenu sur les violences policières. Sujet brûlant et d'actualité, Vincent Derosier.
Oui, il existe bien des policiers violents et il faut les sanctionner, dit d'emblée Emmanuel Macron. Pour autant, le président apporte quelques nuances à ses propos.
Je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer ni oui ni non. C'est pas ça, c'est que je me suis aperçu que pour beaucoup de gens qui ont un projet politique et qui veulent affaiblir, décrédibiliser la police, c'est devenu un slogan.
L'opposition politique pointée du doigt, Emmanuel Macron refuse aussi de reconnaître que les libertés sont réduites en France. Mais il admet tout de même un échec depuis qu'il est à l'Élysée, il ne sait pas comment régler la question des discriminations.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus. Et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon. On est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable.
Emmanuel Macron qui promet une réponse en deux temps. D'abord, les réformes profondes de la police qui seront portées par Gérald Darmanin. Formation, caméra piéton, et puis des outils concrets pour les citoyens. Notamment une plateforme nationale de signalement des discriminations avec un numéro d'appel qui sera mis en place dès le mois de janvier.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Après cette interview, grosse colère des syndicats de policiers, l'un d'entre eux appelle à ne plus procéder à aucun contrôle d'identité pour protester contre cette plateforme justement de signalement. D'autres thèmes ont été abordés durant cette interview concernant les promesses non tenues, l'interdiction du glyphosate par exemple. Emmanuel Macron reconnaît un échec, mais un échec collectif. Il refuse qu'on dise qu'il a reculé sur ses engagements écologiques. Il a également été question des universités, de leur fermeture en pleine période de Covid. Tout sera fait, selon le président de la République, pour que les facs puissent à nouveau rouvrir en janvier. Entre les étudiants livrés à eux-mêmes, l'inégalité sur le plan informatique, il y a la question du décrochage scolaire également.
Alors Agnès, justement, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'égalité des chances.
L'occasion de mettre en lumière les écoles de la deuxième chance, c'est comme ça qu'on les appelle. Chaque année, elles accueillent les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ils sont âgés entre 16 et 25 ans et l'objectif est de les remettre sur les rails d'une formation professionnelle. C'est le cas des jeunes nordistes que vous avez rencontrés, Franck Hanson, dans un établissement de Roubaix. Ils viennent tout juste de retrouver un emploi.
Avant de s'épanouir dans la pâtisserie, Nassim s'est un peu cherché dans la mécanique et l'informatique. Les études, ce n'était pas forcément pour lui.
Les matières générales, j'arrivais plus du tout. J'ai décroché progressivement et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller et je suis parti travailler. J'étais manutentionnaire. Je savais pas quoi faire.
Depuis septembre, ce jeune Lillois de 22 ans a entamé un cursus à l'école de la deuxième chance à Roubaix. Entre stage et cours théoriques, il s'est senti valorisé et a même gagné ses premiers concours.
Dès mon premier stage, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai bien aimé aussi le suivi des les enseignants là-bas. Ils nous motivent toujours. Ils vont adapter les niveaux. Et la pâtisserie, je sais que je peux me donner à 200%. Je pourrais toujours progresser dans ce métier. Quand je rentre chez moi, j'ai envie de faire des gâteaux. J'aime bien faire des choux ou des éclairs au chocolat.
Maëva, à 19 ans, a aussi trouvé sa voie dans la cuisine. Elle devrait bientôt travailler dans un restaurant lillois.
J'ai pu rencontrer des chefs que j'ai pas pu connaître avant. Je trouvais un travail seul, c'est pas très facile, mais on a pu trouver un contrat.
Ouais, faut rester toujours motivé. Il y a du travail, il faut juste aller le chercher.
Et même si les contraintes sanitaires du moment ont parfois perturbé certains stages, ces formations ne sont pas interrompues.
Le reportage de Franck Hanson pour RTL. À noter la date des soldes d'hiver repoussée. Il devait commencer le 6 janvier. Finalement, les promotions débuteront deux semaines plus tard. Une proposition de loi validée cette nuit par les députés. Elle vise à faciliter l'adoption pour tous les couples, qu'ils soient mariés ou non. Ce texte présenté par La République En Marche a provoqué des échanges assez vifs dans l'hémicycle. L'opposition reprochant à la majorité de ne pas faire passer en priorité, je cite, le bien-être de l'enfant. Les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing, elles auront lieu tout à l'heure à Autun, dans le Loir-et-Cher. L'ancien président, je vous le rappelle, est décédé mercredi à l'âge de 94 ans. La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité familiale. Un jour de deuil national a été décrété mercredi prochain.
Vous restez bien là dans un instant, direction les États-Unis où Donald Trump est persona non grata dans les meetings de campagne de son propre camp, alors que se profilent les élections sénatoriales sur place. On vous dit tout après ceci.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
8h08, la suite du journal avec Agnès Bonfillon et une question. Le mois de janvier 2021 sera-t-il maudit pour les républicains aux États-Unis?
Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle et c'est par sa présence dans certains meetings pose problème. Le 5 janvier prochain, une élection partielle doit avoir lieu dans l'État de Géorgie. Moment crucial car la majorité pourrait basculer au Sénat. Le président doit aller soutenir les candidats républicains dans quelques heures et ce n'est pas forcément un cadeau pour son camp. Si ça l'est, Carrie Newton, ça pourrait ressembler à un cadeau empoisonné.
Donald Trump est une bête de scène et l'avoir en meeting électoral galvanise généralement les foules. Mais depuis quelques jours, les républicains s'inquiètent et se demandent si la venue du président en Géorgie n'aura pas plutôt l'effet inverse que celui visé. Difficile d'abord pour ses supporters d'être encouragés à aller voter début janvier, alors que leur président n'a cessé de discréditer le système électoral ces derniers mois. Une de ses avocates a même appelé à boycotter l'élection il y a quelques jours avant de faire marche arrière, se rendant compte que cela favoriserait les démocrate. Deuxième crainte, Donald Trump concentre toute son énergie à montrer qu'il n'a pas perdu l'élection présidentielle. Parviendra-t-il à vraiment parler de l'enjeu du Sénat ce soir? S'il reste obnubilé par ses théories du complot, les analystes l'assurent, il tombera en disgrâce dans son propre parti.
Carrie Newton aux États-Unis pour RTL. Les conditions d'un accord post-Brexit ne sont toujours pas réunies entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Après une semaine de discussions intensives, les négociateurs réunis à Londres ont décidé de faire une pause. On passe au sport et à la 5e victoire d'affilée de l'OM en Ligue 1. Les Marseillais ont battu Nîmes 2-0 hier soir et s'installent ainsi de façon provisoire, mais quand même à la 2e place du classement derrière le PSG, sachant qu'ils ont un match en retard dans leur besace, les hommes de Villas-Boas. Ce soir, les Parisiens, eux, se déplacent à Montpellier. Coup d'envoi à 20h, une rencontre à suivre en direct dans RTL Foot, évidemment. Juste avant, autre match de cette 13e journée, Rennes-Lens, c'est à 17h. En rugby, 11e journée du top 14, victoire hier de Montpellier, qui se déplaçait à Clermont, victoire 21-15.
Agnès, parlons d'une capsule. Cet après-midi, une capsule très particulière est attendue dans le désert australien.
Une capsule de la taille d'un frigidaire qui va être larguée depuis l'espace par la sonde japonaise Hayabusa. Depuis 6 ans, elle récolte des particules d'astéroïdes pour tenter de mieux comprendre la naissance du système solaire. Après avoir confié la précieuse moisson, la sonde continuera sa mission. En tout cas, Sophie Jousselin, c'est une formidable épopée.
Oui, arrivée à 220 000 km au-dessus de nos têtes, Hayabusa larguera sa précieuse cargaison. Elle la rapporte de Ryugu, un caillou de 900 mètres de diamètre à 300 millions de kilomètres de nous, dont elle a creusé le sol après s'y être posée. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Cette centaine de milligrammes de particules est enfermée dans une capsule de 40 kilos. Elle doit se poser sur un terrain militaire dans le sud australien après une descente infernale à 43 000 km. km/h. Elle se terminera par un violent coup de frein et l'ouverture d'un parachute. Une fois récupérée, la capsule reprendra l'air en avion, cette fois vers le Japon, où les scientifiques l'attendent avec impatience. Hayabusa, elle, après ce premier périple de 6 millions de kilomètres, continuera son voyage vers deux autres astéroïdes, 2002 CC et 1998 KY. Elle les atteindra en 2026 pour le premier et en 2031 pour le second.
Sophie Jousselin pour RTL. Autant vous dire que Valérie et Stéphane sont extrêmement concentrés sur la sonde japonaise Hayabusa.
Vous avez fait japonais, vous, non? En troisième langue?
Pas du tout, non. J'allais plusieurs fois au Japon. Mais...
Vous me tenez bien, en tout cas. Merci Agnès, à tout à l'heure.
Arigato gozaimasu. Oui, très bien. Merci, au revoir. Très bien.
On a Chantal qui nous dit sur la page Facebook, c'est une journée youpi parce qu'elle a rendez-vous chez le coiffeur à 8h30 tout à l'heure.
La chance.
Quoi, la chance? Vous y êtes passé, vous, ça y est?
Ouais, mais j'irai bien tous les jours.
Mais c'est pas mal, c'est bien réussi.
Pourquoi vous dites rien pour ma frange?
Parce que j'ai déjà tout dit,
je crois. Que je fais moi-même.
8h12, soyons foot comme tous les samedis matins sur RTL. C'est le moment de prendre un pari sur l'actualité du ballon rond.